homme prophétique. Vous ne voulez pas comprendre que les hommes prophétiques sont des hommes qui souffrent beaucoup. Vous pensez seulement qu'un beau don leur a été accordé, et vous voudriez bien l'avoir vous-même. Mais je veux exprimer ma pensée par une parabole. Combien les animaux doivent souffrir par l'électricité de l'air et des nuages? Nous voyons que quelques-uns d'entre eux possèdent une faculté prophétique en ce qui concerne le temps. Par exemple, les singes. On peut même observer cela en Europe, et non seulement dans les ménageries, mais à Gibraltar. Mais nous ne pensons pas que chez eux, les prophètes, ce sont leurs douleurs. Lorsqu'un fort courant d'électricité positive tourne soudain, sous l'influence d'un nuage qui s'approche sans être déjà visible, en électricité négative, et qu'un changement de temps se prépare. Ces animaux se comportent de la même manière qu'à l'approche d'un ennemi. Ils s'organisent pour la défense et la fuite. Généralement, ils se cachent. Ils ne voient pas dans le mauvais temps, mais l'ennemi dont ils sentent déjà la main. Regard en arrière. Nous avons rarement conscience de ce que chaque période de souffrance de notre vie a de pathétique. Tant que nous nous trouvons dans cette période, nous croyons au contraire que c'est là le seul état possible désormais, un éthos et non un pathos, pour parler et pour distinguer avec les Grecs. Quelques notes de musique me rappellent aujourd'hui à la mémoire un hiver, une maison et une vie essentiellement solitaires, et en même temps le sentiment où je vivais alors. Je croyais pouvoir continuer à vivre éternellement ainsi. Mais maintenant, je comprends que c'était là uniquement du pathos et de la passion, quelque chose de comparable à cette musique douloureusement courageuse et consolante. On ne peut pas avoir de ces sensations durant des années ou même durant des éternités. On en deviendrait trop éthéré pour cette planète. Sagesse dans la douleur. Dans la douleur, il y a autant de sagesse que dans le plaisir. Tous deux sont au premier chef des forces conservatrices de l'espèce. S'il n'en était pas ainsi de la douleur, il y a longtemps qu'elle aurait disparu. Qu'elle fasse mal, ce n'est pas là un argument contre elle, c'est au contraire son essence. J'entends dans la douleur le commandement du capitaine de vaisseau. Amenez les voiles ! L'intrépide navigateur homme doit s'être exercé à diriger les voiles de mille manières. Autrement, il en serait trop vite fait de lui, et l'océan bientôt l'engloutirait. Il faut aussi que nous sachions vivre avec une énergie réduite. Aussitôt que la douleur donne son signal de sûreté, il est temps de la réduire. Quelques grands dangers, une tempête se prépare, et nous agissons prudemment en nous gonflant aussi peu que possible. Il est vrai qu'il y a des hommes qui, à l'approche de la grande douleur, entendent le commandement contraire, et qui n'ont jamais l'air plus fiers, plus belliqueux, plus heureux que lorsque la tempête s'élève. C'est même la douleur qui leur donne leurs instants sublimes. Ce sont là des hommes héroïques, les grands messagers de douleur de l'humanité. Ces rares individus dont il faut faire la même apologie que pour la douleur en général. Et en vérité, il ne faut pas la leur refuser. Ce sont des forces de premier ordre pour conserver et faire progresser l'espèce. Ne fût-ce qu'en résistant au sentiment de bien-être et en ne cachant pas leur dégoût de cette espèce de bonheur. Interprète des événements de notre vie. Une espèce de franchise a toujours manqué à tous les fondateurs de religions et à ceux qui leur ressemblent. Ils n'ont jamais fait des événements de leur vie une conscience pour la connaissance. Que m'est-il arrivé en somme? Que se passa-t-il alors en moi et autour de moi? Ma raison fut-elle assez claire? Ma volonté était-elle armée contre toutes les duperies des sens et brave dans sa résistance contre les duperies de l'imagination? Aucun d'eux ne s'est posé cette question, et tous nos bons religieux ne se la posent pas non plus aujourd'hui. Ils ont par contre une soif des choses qui sont contre la raison, et ne veulent pas avoir trop de peine à les satisfaire. C'est ainsi qu'il leur arrive des miracles et des régénérescences. C'est ainsi qu'ils entendent la voix des anges. Mais nous autres qui avons soif de la raison, nous voulons examiner les événements de notre vie aussi sévèrement que s'ils étaient des expériences scientifiques, heure par heure, jour par jour. Nous-mêmes, nous voulons être notre propre sujet d'essai et d'expérience. En se revoyant, A. Est-ce que je t'entends bien? Tu cherches quelque chose? Où se trouve au milieu du monde réel d'aujourd'hui ton domaine et ton étoile? Où peux-tu te cocher au soleil pour que toi aussi tu aies un excellent de bien-être et qu'on existence se justifie? Que chacun agisse pour son compte, semble-t-il me dire, et se sorte de la tête les généralités, le souci des autres et de la société? B. Je veux davantage. Je ne suis pas de ceux qui cherchent. Je veux créer pour moi mon propre soleil. Nouvelle précaution. Ne pensons plus autant à punir, à blâmer et à vouloir rendre meilleur. Nous arriverons rarement à changer quelqu'un individuellement, et si nous y parvenions, peut-être, sans nous en apercevoir, aurions-nous fait autre chose encore. Nous aussi, nous aurons été changés par l'autre. Tâchons plutôt que notre influence sur ce qui est à venir contrebalance la sienne et l'emporte sur elle. Ne luttons pas en combat direct. Et toute punition, tout blâme, toute volonté de rendre meilleur est cela. Élevons-nous au contraire nous-mêmes d'autant plus haut. Donnons à notre exemple des couleurs toujours plus lumineuses. Obscurcissons l'autre par notre lumière. Non, à cause de lui, nous ne voulons pas devenir plus obscurs nous-mêmes. Comme tous ceux qui punissent, comme tous les mécontents. Mettons-nous plutôt à l'écart. Regardons ailleurs. Parabole. Les penseurs dont les étoiles suivent des routes cycliques ne sont pas les plus profonds. Celui qui voit en lui comme dans un univers immense et qui porte en lui des voies lactées, sait aussi combien toutes les voies lactées sont irrégulières. Elles conduisent jusque dans le chaos et le labyrinthe de l'existence. Bonheur dans la destinée. La plus grande distinction que puisse nous réserver la destinée, c'est de nous laisser combattre pendant un certain temps aux côtés de nos adversaires. C'est ainsi que nous sommes prédestinés à une grande victoire. In media vita. Non, la vie ne m'a pas déçue. Je la trouve au contraire d'année en année plus riche, plus désirable et plus mystérieuse. Depuis le jour où m'est venue la grande libératrice, cette pensée que la vie pouvait être une expérience de celui qui cherche la connaissance, et non un devoir, non une fatalité, non une duperie. Et la connaissance elle-même, que pour d'autres, elle soit autre chose, par exemple un lit de repos, ou bien le chemin qui mène au lit de repos, ou bien encore un divertissement ou une flânerie. Pour moi, elle est un monde de danger et de victoire, où les sentiments héroïques, eux aussi, ont leur place de danse et de jeu. La vie comme moyen de la connaissance. Avec ce principe au cœur, on peut non seulement vivre avec bravoure, mais encore vivre avec joie, rire de joie. Et comment s'entendait-on à bien rire et à bien vivre si l'on ne s'entendait pas d'abord à la guerre et à la victoire? Ce qui fait partie de la grandeur. Qui donc atteindra quelque chose de grand s'il ne se sent pas la force et la volonté rajouter de grandes douleurs? C'est le moindre de savoir souffrir. Les femmes faibles et même les esclaves y arrivent à la maîtrise. Mais ne pas périr de misère intérieure et d'incertitude lorsque l'on provoque la grande douleur et que l'on entend le cri de cette douleur, cela est grand. Cela fait partie de la grandeur.